Toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutez En bas à gauche, spécial Palestine aujourd'hui. Donc, tel qu'annoncé en début d'émission, on se penche aujourd'hui sur l'expérience de la flottille de la liberté, la seconde flottille de la liberté qui visait à briser le blocus maritime imposé par l'État d'Israël à la bande de Gaza, donc en Palestine. Le mois dernier, en juillet, c'était 10 bateaux qui prenaient part à cette flottille de la liberté, dont le Tahrir, le bateau canadien pour Gaza, qui a été arraisonné par la garde côtière grecque le 4 juillet. Le seul bateau à avoir quitté les eaux grecques, c'est le Dignité Al-Karama, donc le dernier bateau qui restait en cours, c'était le bateau français, qui lui a été arrêté par l'armée israélienne le 19 juillet. On vous propose d'écouter à ce sujet le porte-parole de ce bateau, mais avant, pour nous expliquer un peu, mettre le contexte du pourquoi de cette initiative, on rediffuse une entrevue réalisée également par Radio Canute auprès de militants de la première flottille de la liberté. On se souviendra que la première flottille de la liberté avait été arrêtée en mai 2010 par une opération militaire très violente de la part d'Israël qui s'était soldée par la mort de 9 personnes. Donc, on écoute les militants de cette première flottille de la liberté.
On accueille 4 personnes du collectif de soutien au peuple palestinien. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, la flottille de l'appel l'année dernière?
Donc, tout d'abord, pour cette flottille qui est partie en mai 2010, donc on était parti dans le cadre d'une résolution de l'ONU, la résolution 1860, qui comportait 9 points. Et parmi les points, il y avait l'ONU soutenait, cette résolution disait qu'elle soutenait toute initiative qui pourrait créer des couloirs humanitaires pour acheminer de l'aide alimentaire ou de l'aide médicale pour la bande de Gaza. Donc, à partir de là, l'association Free Gaza et d'autres associations, ont acheminé 6 bateaux vers la bande de Gaza. Donc, 3 bateaux qui sont partis de Grèce. Donc, moi, je suis parti de Grèce le 24 mai 2010. Donc, 3 bateaux. Il y avait un bateau passager avec une 60aine de personnes, avec essentiellement des humanitaires, des activistes pour la paix et beaucoup de journalistes. Il y avait une grande partie de journalistes sur notre bateau. Vous aviez aussi un cargo grec qui transportait une 100aine de maisons préfabriquées qui étaient destinées aux habitants de Gaza, avec des fauteuils roulants électriques, de l'aide médicale. En tout, sur toute la flottille, il y avait plus de 10 000 tonnes d'aide alimentaire. Donc, on devait rejoindre 3 autres bateaux qui étaient en Turquie, donc qui démarraient de, si je ne me trompe pas, d'Antalya en Turquie. Donc, avec nos 3 bateaux, on s'est retrouvé au large de Chypre avec les bateaux turcs qui étaient partis de Turquie. Et on a pris la décision de partir directement sur la bande de Gaza. Donc, notre stratégie, c'était en fait d'éviter au maximum la marine israélienne. Donc, la stratégie, c'était de partir vers les eaux territoriales égyptiennes. Donc, aller vers les eaux territoriales égyptiennes et en même temps entrer dans les eaux territoriales de la bande de Gaza. Et au dernier moment, d'essayer de repiquer sur la bande de Gaza. Et bon, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, les Israéliens, ils ont essayé d'être plus, on va dire, rusés que nous. Donc, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont attaqué carrément dans les eaux internationales. Donc, à plus de 80 miles des eaux internationales, des eaux territoriales israéliennes. Donc, vous avez ce qui s'est passé, c'est tout d'abord le dimanche 30 mai, il y a la marine israélienne qui a pris contact avec la plupart des bateaux en nous demandant de faire machine arrière. Donc, ils nous ont dit, vous rentrez dans une zone de guerre, il faut que vous fassiez machine arrière. Donc la plupart des capitaines de bateaux ont dit, c'est négatif, notre direction c'est Gaza. À partir de là, ils ont coupé le contact avec nous. Et le lundi 31 mai, vers minuit, on a eu une alerte. En fait, le Mavi Marmara, le plus grand des bateaux, il a repéré sur ses radars en fait 2 navires apparemment de guerre qui nous suivaient. Donc à partir de ce moment-là, on a eu tous l'ordre au niveau des passagers de remettre des gilets de sauvetage. Et là, on était tous anxieux, on se demandait ce qui se passait. À 2h30, on a eu une alerte, il ne s'est rien passé. Et à 4h du matin, on a eu une autre alerte, et là, à partir de là, on a commencé à voir plusieurs zodiacs, en fait, des zodiacs qui commençaient à prendre d'assaut chaque bateau. Donc moi, je regardais le spectacle, je voyais les zodiacs de la marine israélienne prendre d'assaut le Mavi Marmara, en essayant de monter par derrière, en jetant des filins pour essayer de monter sur le Mavi Marmara, en jetant aussi des grenades explosives. C'est vraiment une scène de guerre surréaliste. À ce moment-là, ils se sont dirigés sur notre bateau. Donc moi, avec les personnes qui étaient avec moi, je leur ai demandé de rejoindre nos postes parce qu'on avait des tâches différentes à faire. Donc il y avait certaines personnes qui étaient chargées de... On devait en fait protéger les points vitaux des bateaux. Donc des personnes devaient protéger pacifiquement les machines des bateaux, le moteur, et d'autres personnes devaient protéger la cabine de pilotage. C'est-à-dire leur résister, mais d'une façon pacifique, à la manière des gens de Greenpeace. Donc eux, quand ils sont montés, on va dire qu'ils sont montés très vite sur notre bateau, toutes les personnes qui leur étaient opposées, en fait, c'est soit on recevait des coups de taser, soit des coups de matraque. On était carrément braqués avec des fusils d'assaut. On avait ce qu'on appelle les infrarouges, ils avaient des armes à visée laser. Donc on voyait des petits points rouges qui se baladaient sur nos corps. À tout moment, ils pouvaient nous tirer dessus. Et finalement, au bout d'une demi-heure, ils ont pris notre bateau. On était prisonniers sur notre propre bateau. On ne savait pas ce qui se passait sur les autres bateaux. Parce qu'une fois qu'ils ont attaqué les différents bateaux, c'est complètement... tous les bateaux se sont éparpillés. Et à partir de là, on a tous été, on va dire, la plupart des bateaux. Donc, notre bateau arrivait le premier dans un port militaire d'Ashdod. Donc là, on est arrivé. On est descendu un par un du bateau. Nous ont demandé de prendre simplement nos passeports. Et on est arrivé dans une sorte de chapiteau. Donc le premier étape du chapiteau, on avait un bureau où il y avait une personne qui nous demandait de signer un document comme quoi on était rentré illégalement en Israël. Donc à la cadence de 10 minutes, chaque passager descendait escorté par deux militaires. Donc moi, quand je suis arrivé, on m'a présenté un document en hébreu, on m'a demandé de signer ce document, sans que je sache ce qu'il y avait sur ce document. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'on m'emmène une personne qui parle en français. Donc il y a une personne qui s'est présentée à moi, elle m'a dit, voilà, ce document, si vous signez ce document, ce soir vous serez chez vous. Donc moi j'ai refusé de signer le document parce qu'on avait l'ordre de signer aucun document, donc on ne savait pas ce que c'est, ou ces documents pouvaient les dédouaner au niveau de la justice internationale. Donc moi j'ai dit, je ne signerai pas ce document. Elle m'a dit, écoutez, signez ce document, vous allez aller en prison. Une deuxième fois, je lui ai dit, je ne signerai pas ce document. Une autre fois, elle m'a après dit, signez ce document, et j'en parlerai pas aux autres participants de la flottille. Elle a voulu en fait me désolidariser des autres équipiers. Donc à partir de là, j'ai encore dit je signerai pas le document, puis elle a compris que j'allais pas signer. Donc on est passé dans un chapiteau, on a été fouillé, on a été vraiment, ils ont pris nos empreintes, ils nous ont pris en photo. Donc après pratiquement une demi-heure de contrôle, d'interrogatoire, de vérification de nos passeports, on a été conduit dans une prison israélienne, dans le désert israélien, et on est resté 3 jours. Et avec le tollé international que ça a provoqué, l'attaque contre cette flottille, au bout de 3 jours, on a été libéré. Donc là, on a été conduit avec des bus à l'aéroport Ben Gurion pour être expulsé vers la Turquie. Et là, ce qui s'est passé, c'est que même pendant l'expulsion, quand on a été dans l'aéroport, il y a des gens qui se faisaient tabasser dans l'aéroport, il y a des gens qui ont été emmenés dans des centres de rétention, qui ont subi des grosses pressions psychologiques. Nos passeports, quand on leur remettait nos passeports, parce qu'on va dire avant de partir, c'est eux qui avaient toujours nos passeports, mais quand on est arrivé à l'aéroport, ils nous ont remis nos passeports. Quand on présentait nos passeports à des points de contrôle, ils nous remettaient, pour certaines personnes, pas pour ça n'a pas été mon cas, alors, on leur remettait le passeport, et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous donnaient un document, un papier, ils nous disaient, voilà, c'est votre nouveau passeport. Donc, on se faisait voler nos passeports en plein dans l'enceinte de l'aéroport. Donc, après ça, on a été, on va dire, expulsés vers la Turquie, et la plupart des militants, en fait, on s'est retrouvés. Quoi. Toutes les personnes qui ont été emprisonnées, plus de 600 personnes, se sont retrouvées en étant emprisonnées, et après, ont été libérées. Quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même, pendant cet assaut, il y a eu 9 personnes qui ont été tuées, et plus d'une soixantaine de blessés. Voilà, ça s'est fini tragiquement.
Sur Lyon, il y a eu des manifestations, il y a eu plus de 10 000 personnes sur Lyon. C'est des manifestations très très importantes, de l'ordre des manifs des retraites. Donc ouais. Ça a eu un impact international.
Ouais, c'est vrai que dans le monde, il y a eu une grosse mobilisation.
Même sur Lyon. Ouais.
C'est une campagne absolument exceptionnelle. Ce n'est pas une campagne humanitaire, nous n'avons pas collecté des fonds pour acheter de l'humanitaire. Nous avons collecté des fonds pour acheter un bateau pour que la société civile dise non, dénonce le blocus illégal de Gaza et exprime ce ras-le-bol de l'impunité d'Israël et exprime la solidarité des peuples avec la population gazaoui. Ce qui est exceptionnel dans cette campagne qui a duré 3 mois et qui dure encore, c'est que nous avons aujourd'hui, je crois que nous en sommes à plus de 600 000 euros. Ce sont 600 000 euros pour à peu près plus de 90% ont été collectés dans la population. C'est-à-dire que c'est l'expression politique de la population civile, de la société civile. Les partis et syndicats ont probablement donné entre 3 et 4% de cette somme. Et c'est donc, cette flottille est un message, ce bateau est un message politique qui est adressé, évidemment en priorité aux Gazaouis, qui est adressé à la communauté internationale et qui est adressé, elle exprime ça. Les textes qui circulent où on parle d'un bateau transportant de l'aide humanitaire, mais il faut ne pas se tromper, c'est une flottille politique au niveau national et international.
Palestine, mon sens, ma boussole, ma devise, mon exemple, mon symbole, ma direction, ma route, mon emblème, ma logique, ma référence, mon modèle, là où je puise toute mon aspiration, mon énergie, ma foi, ma détermination. Un peuple, une terre qui force l'admiration, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire non, toujours debout, malgré les exactions, les douleurs, les souffrances, les coups de bâton, toujours debout. Malgré les meurtrissures, jamais à genoux, devant la pourriture. Palestine, ton courage est exemplaire, salutaire. Je t'envoie mes prières, Shabbat Palestine. Tu m'impressionnes, Alain Dielik, l'arrière de le microphone. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Ana Jazairi, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Ana Jazairi, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Moi j'ai pas suffisamment de vocabulaire pour te raconter à quoi ressemble l'enfer, te raconter Gaza et son calvaire, à quoi ressemble la vie après un raid militaire. Alors je tiens à mettre les choses au clair, ma vision n'est pas humanitaire, ma position uniquement solidaire. Je suis toujours partial quand il s'agit de mes frères. Aucune ambiguïté, j'ai clairement choisi mon camp. Instinctivement pour les miens j'ai fait serment. Naturellement du côté de mes parents, du côté de mes ancêtres, du côté de mes enfants. Moi je suis du côté du dominé sans équivoque, du côté de l'oppressé, du côté du sans-voix, du côté de l'opprimé, du côté du tiers-monde et des peuples martyrisés. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Ana Jazairi, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Ana Jazairi, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Je ne suis qu'une conséquence, un résultat, je ne suis qu'un héritier. On m'a pas donné le choix, on m'a seulement transmis le goût de la liberté, l'insoumission, l'indépendance et la fierté. On m'a transmis la colère, la dignité, l'insurrection, la révolte, la combativité. On m'a transmis la vigilance, la lucidité. On m'a transmis l'algérianité, donc rien à foutre de ton droit international. J'ai pas besoin de tes références occidentales pour savoir qu'Israël n'est qu'une machine coloniale, illicite, illégitime et illégale. Pour savoir que je déteste les nazis de Tsahal, ces acolytes des multinationales, tous ses alliés, ses complices criminels de New York, Buckingham, de Paris ou de Bruxelles. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Ana Jazairi, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Ana Jazairi, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Ana Jazairi, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Ana Jazairi, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts.
Sur le blocus de Gaza, il faut en parler parce qu'on n'en parle pas assez dans la presse d'une façon générale, on n'en parle pas assez. Et il y a des contre-vérités qui sont, on nous balance Bon, c'est vrai que ça paraît extraordinaire que ce blocus, il continue depuis 2006. C'est extraordinaire, mais c'est vrai. Le blocus est quasiment total. Alors, on dit aujourd'hui que depuis la dernière flottille de la liberté, il y a eu un allègement du blocus. Alors, c'est vrai qu'Israël l'a dit. Ça, elle a dit qu'elle allait alléger le blocus. Mais en fait, elle ne l'a pas fait. À tel point qu'il y a des organisations internationales qui ont dénoncé ça, prolongement du blocus de Gaza, désespoir réduit à néant. Amnesty International, Handicap International, etc. Oxfam l'ont dénoncé. Et également l'ONU, hein, l'OTCHA, l'organisation spécialisée de l'ONU, l'a dénoncé. En fait, les camions arrivent au compte-gouttes et la population de Gaza vit dans un dénuement vraiment total. Il y a près de 43% de chômage, c'est un des taux les plus forts au monde. Il y a impossibilité de sortir les produits qui sont fabriqués de Gaza. Les gens souffrent de maladies qu'ils n'ont pas la possibilité de se soigner. D'habitude, c'était les hôpitaux se retrouvaient en Israël ou en Cisjordanie, et donc ils sont impossibilités. Il y a impossibilité de sortir. Les familles sont bloquées. Les familles, depuis donc 2006, ne peuvent plus se voir. Ceux qui sont en Cisjordanie ne peuvent plus aller voir les gens de Gaza. Les gens de Gaza ne peuvent pas sortir. On dit aussi qu'il y a l'ouverture du passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza. Donc, ce qui est une très très bonne chose, hein, ce qui est une des conséquences du printemps arabe. Mais ça ne résout pas tout, parce que notamment les camions ne rentrent pas par Rafah. C'est juste une possibilité pour des individus de sortir, et notamment au niveau médical, c'est une possibilité qui est offerte aujourd'hui aux Gazaouis. Mais le blocus est total par la mer, le blocus est total par tous les postes frontières qui suivent la frontière entre Gaza, enfin ce mur qu'il y a entre Gaza et Israël.
Sachant aussi que le point de passage de Rafah, en fait, selon les accords, si je me trompe pas, de Camp David, disent que par l'Égypte, par le point de passage de Rafah, il n'y a que des médicaments qui peuvent entrer vers Gaza. Les autres points de passage qui sont israéliens, c'est tout ce qui va être l'alimentaire qui rentrera par là. Donc, ça rentre pas. En gros, les Israéliens essayent de faire croire que ça a été allégé, mais la situation est de plus en plus catastrophique. Le ciment, tous les matériaux de reconstruction, ils sont interdits d'entrer dans la bande de Gaza. Sachant qu'il y a des gens qui vivent depuis l'agression de janvier 2009, soit dans des tentes ou soit dans un conteneur, des dizaines de milliers de personnes. Donc, tu voulais dire quelque chose, Georges ?
Oui, moi je voulais dire que nous devons cesser d'évoquer le nombre de camions qui rentrent ou qui ne peuvent pas rentrer. La question n'est pas là. La question est qu'Israël viole les conventions de Genève. Il n'y a pas de guerre. Il y a un pays qui occupe, et ce pays doit protéger les populations et non pas les enfermer dans un camp de concentration. Et notre problème n'est pas d'assurer la survie dans le camp de concentration, mais de briser les murs de ce camp de concentration. Les Gazaouis demandent, et ce que nous demandons, c'est la liberté de circulation de ces gens, où et quand ils veulent, avec les moyens qu'ils veulent, par quels que soient les moyens, c'est-à-dire par air, par terre, par mer. Et Israël a détruit, il y a plusieurs années, l'aéroport qui avait été construit par l'Union européenne. Israël bloque les frontières terrestres et interdit les frontières maritimes en prétendant qu'il y a une zone de guerre. Il n'y a pas de zone de guerre parce qu'il n'y a pas deux armées. Il y a une armée, c'est l'armée israélienne. Donc nous devons cesser de nous poser des questions sur le nombre de camions humanitaires et de prononcer sans cesse ce mot humanitaire. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, nos exigences, c'est la liberté de ce peuple. Les conventions de Genève font exigence à l'occupant d'assurer la sécurité des populations occupées, vivant sous occupation. Et là, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de populations vivant sous occupation qui sont enfermées dans des camps de concentration à ciel ouvert. Il s'agit de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et si nous allons à Gaza, c'est pour dire ça. Ce n'est pas pour exiger qu'un camion ou deux passent en plus. Et il faut être clair. Il faut le dire. Il faut cesser de tourner autour du savoir si le parafa, ils peuvent, des vivres ou des médicaments ou autres peuvent passer. Là n'est pas le problème. Le problème est qu'il faut rendre au peuple palestinien sa liberté sur l'ensemble du territoire palestinien, que Gaza fait partie de la Palestine. Et ce qui est intolérable, et je le dis en tant que juif, c'est qu'Israël se pare de la tragédie des juifs d'Europe qui ont été et enfermés et mis dans des camps d'extermination et enfermés dans des ghettos pour reproduire les mêmes crimes à Gaza. وصلاة بتخلي الشوق في طريقنا كأنه حرير على باب القدس وعود وأمان وحلم كبير وصلاة بتخلي الشوق في طريقنا كأنه حرير في ايديهم نار واحنا بأحجار حنخلي ضلال الغدر يفور في سبيل الله ارخص يا حياة يا تعود القدس يا إما نموت
سيديهم نار وإحنا بأحجار
حنخلي ظلام الغدر يفوت
في سبيل الله ارخص يا حياة
يا تعود القدس يا إما نموت
يا تعود القدس يا إما نموت
y voir. Moi, je suis un des porte-parole de la campagne Un bateau français pour Gaza, qui s'inscrivait dans la flottille de la Liberté 2, qui avait pour objectif de dénoncer le blocus fait aux Palestiniens de Gaza, 1,5 million de Palestiniens qui vivent enfermés depuis 4 ans, qui peuvent ni commercer, ni sortir, ni accueillir leurs amis, leurs familles ou les militants de la solidarité. Alors hier, un des bateaux de la flottille, le dernier qui a réussi à échapper en fait au blocus exercé par la sous-traitance militaire grecque, la sous-traitance, je dis la sous-traitance parce que l'armée israélienne a sous-traité le blocus aux Grecs qui ont empêché un grand nombre de bateaux de partir depuis les ports de Grèce. Et donc ce petit bateau, le Dignité Al-Karama, s'est retrouvé dans les eaux internationales hier à proximité de Gaza, à 40 000 nautiques, et s'est retrouvé encerclé par 4 gros navires portant des missiles, 7 vedettes militaires, 150 hommes en armes pour arrêter ce petit bateau de 16 mètres portant sur lui 16 militants, bah, journalistes, 16 personnes, quoi. Voilà, et l'ensemble de la délégation et ainsi que le bateau ont été acheminés de force à Ashdod, un port israélien, conduits dans un centre d'identification, puis un centre de rétention, avant d'être expulsés. Ils arrivent dans quelques minutes, dans quelques heures, à Paris.
Alors, en termes de légalité internationale, c'est un peu étonnant d'arrêter un bateau dans les eaux internationales, non ?
C'est étonnant dans l'absolu. Ça n'est même plus avec Israël qui a donné l'habitude en fait, de s'asseoir à peu près sur tout ce qui peut avoir valeur de droit, c'est-à-dire que le droit pour eux se résume à leurs intérêts, et ils sont capables effectivement d'intervenir dans les eaux internationales contre un bateau de civils qui veut simplement se rendre à Gaza, voilà, parce que de toute façon, ces gens-là ont visiblement des principes, et leur principe c'est isoler constamment les Palestiniens, continuer à coloniser, continuer à morceler la Palestine, et à isoler le peuple palestinien de la solidarité internationale qui, malgré tout, est de plus en plus forte et visible.
Toi, j'imagine que tu as déjà eu des contacts avec les passagers qui se sont fait arrêter. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé pour eux ?
Alors nous, on a eu... moi, j'ai eu un contact là d'un qui vient de rentrer. Les autres, ils sont au secret, hein, depuis 8h30 hier matin, heure de Paris, toutes les communications ont été brouillées et coupées depuis le bateau. On les avait par téléphone satellite et par Internet. Tout ça, ça a été coupé, quoi. Parce que forcément, pour l'armée israélienne, il ne faut pas montrer, ou en tout cas, ils veulent maîtriser leur propre communication dans cette guerre d'images-là. Et a priori, alors, les Israéliens ont joué le truc genre soft, on les arrête, on leur donne à manger, on les aide à monter, etc. Et puis, une fois que les caméras se sont éteintes, les caméras israéliennes, de l'armée israélienne, ils ont été enfermés dans des petits des cellules sur les bateaux et emmenés au secret, interrogés, etc. Bon, ils n'ont pas été victimes de violence. Par contre, on n'oublie pas, nous, de notre côté, que l'armée israélienne, là, si elle n'a pas exercé de violence, c'était juste dans un intérêt de toute façon de communication. Et que régulièrement, et encore cette semaine, ils sont capables de régulièrement bombarder les civils à Gaza ou de tirer sur les Palestiniens en Cisjordanie.
Alors peut-être une dernière question sur l'idée de base de cette flottille. C'était une flottille humanitaire ?
Non, c'était une flottille forcément qui avait un enjeu politique avec une dimension symbolique humanitaire. Mais ce que les Palestiniens demandent, c'est pas la charité. Ce qu'ils demandent, c'est le droit à pouvoir importer et pouvoir exporter les marchandises. Simplement, symboliquement, on voulait bien signifier que le blocus de Gaza, c'est à différentes dimensions. Une dimension humaine, c'est-à-dire que les Palestiniens physiquement ne peuvent pas sortir, sauf exception, et que les étrangers ne peuvent pas rentrer à Gaza. Voilà, nous, on ne peut pas y aller comme ça, mais que ça soit par terre et encore moins par mer, on l'a vu. Mais aussi une dimension économique ou matérielle. Le matériel, y compris de reconstruction, suite à l'opération Plomb Durci qui a détruit 60% des infrastructures à Gaza, ne peut toujours pas rentrer, et donc les Palestiniens ne peuvent toujours pas reconstruire. Voilà. Alors après, ce n'est pas une dimension humanitaire au sens où on penserait que le blocus de Gaza, c'est une catastrophe naturelle. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Les Palestiniens pourraient très bien s'en sortir seuls. Ils n'ont pas besoin de l'aide étrangère si simplement on les laisse exercer leur activité économique, politique, sociale, normalement.
C'est ce qui met fin à cette émission d'En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Retrouvez-nous la semaine prochaine, mardi à 9h pour notre programmation estivale spéciale. Et d'ici là, retrouvez l'ensemble de notre programmation. Vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez également nous laisser des commentaires, tout ça sur notre site web que vous devez vraiment aller visiter à en bas à gauche wordpress.com. On vous retrouve la semaine prochaine, mardi 9h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bonne semaine!